C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, notre escalier de la vérité nous amène dans l'intimité des derniers présidents américains et notamment Donald Trump. La déliquescence de tout un système aboutit à des dirigeants sans tête. Les pantalonnades du duo Trump-Musk, alliance d'un tycoon expert en politique spectacle et d'un milliardaire visionnaire sous substance, aboutit à un clash retentissant joué sous les yeux d'un monde médusé. Promesses de révélations graveleuses, annulation de juteux contrats d'État, évocation de spéculation et de délits d'initiés profitant à une famille, l'autoproclamée première puissance du monde vogue à la dérive, entre des mesures couperées freinées par les opposants, les taxes à l'importation au montant variable selon l'humeur du jour, les coups de gueule médiatiques atteignant ceux qui prétendent dicter au milliardaire immobilier sa conduite, qu'il s'appelle Zelensky ou Netanyahou, les tentatives de refabriquer américains qui demandent des années, et les annonces de nouveautés en matière d'armement qui ne sont que des fantasmes infinançables, l'oncle Sam est un leader qui a perdu sa boussole. Ce n'est pas d'aujourd'hui. N'oublions pas que Biden, qui refusa tout test cognitif, est celui qui confondait les présidents égyptiens et mexicains, le Cambodge et la Colombie, qui appelait Macron le Mitterrand d'Allemagne, qualifiait Trump de président en exercice, tripotait les oreilles d'une fillette de 6 ans en lui en attribuant 17, et à l'issue d'un discours déclarait qu'il allait se coucher ou se retourner et s'enfoncer dans la jungle. Lisant sur les prompteurs tout ce qui était marqué, y compris les conseils pour l'orateur, sa signature fut abondamment utilisée par son entourage qui le manipulait totalement. Les médias étaient parfaitement au courant et regardaient ailleurs, assimilant les bourdes monumentales à de la fatigue ou à de la distraction. Obama était en embuscade comme Hillary Clinton et les morts suspectes se poursuivaient, à commencer par celle de son cuisinier privé, Tafari Campbell, ex-sous-chef cuisinier de la Maison Blanche, parti pratiquer le paddle sans gilet de sauvetage à Edgartown Great Pond, où se trouve la propriété de 12 millions de dollars de l'ex-président afro-américain, avec ses 8 salles de bain plantées sur 30 acres de terre submersible, un paradoxe pour un homme convaincu de la montée des océans. La victime, qui avait concocté de célèbres recettes comme cette bière brassée avec des ingrédients provenant du jardin de la Maison Blanche, la victime donc savait-elle ou non nager? Les réseaux sociaux sont partagés à ce sujet, les communications du noyé étant contradictoires. Le fait que l'appel d'urgence signalant un homme en train de se noyer ait été fait depuis la résidence des Obama et la volonté de l'ex-président qu'il n'y ait pas d'autopsie apportent de l'eau au moulin de thèse, soutenant qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Quoi qu'il en soit, Walter Scheib, ancien chef de l'exécutif ayant servi sous Clinton et Bush, avait également été retrouvé mort noyé dans le Nouveau-Mexique. La fortune du couple Obama d'environ 70 millions de dollars ne laisse pas d'étonner. Arrivé à la Maison Blanche avec un patrimoine estimé au maximum à 7,5 millions de dollars, il se dit que Barack et son épouse ont réalisé des investissements avisés, dont 60 millions de dollars encaissés en avance de droit pour leur mémoire, auxquels s'ajoutent des émoluments de 50 millions de dollars avec Netflix pour produire des documentaires. À mettre en parallèle avec une cote de popularité au terme du deuxième mandat, la plus basse de l'histoire.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
Portez par la guitare et par l'orgue électrique, ami, votre chanson est venue jusqu'à moi. Vous aimez l'Angleterre et l'Inde et l'Amérique, mais à votre façon, en faisant votre choix. La moto désirée au soleil étincelle et vous promet les joies des galops westerniens. Et pour vos carousels, quand vous sautez en selle, vos casques de martiens effrayent les bourgeois. Vous aimez les chansons et vous les savez toutes, qu'elles soient d'Aragon, de Ferré, de Ferrat. Vous y puisez l'espoir, vous y noyez vos doutes. De mon temps nous chantions « Ay, qui vivra verra ». Moi j'ai cru ce refrain et ce qu'il en résulte, c'est que je n'ai rien vu que passer mes printemps. À plus de 50 ans, me voilà plus qu'adulte, mais je n'ai rien perdu de mes étonnements. Dans ce bistrot navrant où j'entre le dimanche, je n'ai pour horizon un patron auvergnat, mais je reste au comptoir où je salis mes manches.
quand filles et garçons vous vous asseyez là, vous riez entre vous devant vos limonades, vous êtes l'amitié et presque un monde à part. J'aurais aimé parler avec vous, camarades, mais je n'ai pas osé, maintenant c'est trop tard. On dit que vos amours sont bien souvent précoces. Vous avez bien raison, vivre c'est fait pour ça. L'église, la mairie, les invités, la noce, et le chant des klaxons, on vous dit ça viendra. Moi je dis mes amis des villes et des villages, qu'en finira la nuit où ce siècle s'endort. Peut-être grâce à vous, grâce à la fleur de l'âge, on cueillera les fruits d'un nouvel âge d'or. On cueillera les fruits d'un nouvel âge d'or.
Donald Trump, profession, battleur flamboyant. Hobby, président des États-Unis. Particularité ne s'avoue jamais vaincue. Parmi d'autres florilèges de la pensée trumpiste, montrez-moi quelqu'un qui n'a pas d'ego et je vous montrerai un perdant. Trump, dont la fortune est plus modeste qu'il ne l'avoue, a fait plusieurs fois faillite. Dans les années 80, Donald était très endetté, notamment à cause de son casino d'Atlantic City. Un tiers des appartements de la Trump Tower avait été vendu à la mafia russe qui avait ouvert un casino clandestin au 73e étage. Le premier investisseur à hauteur de 6 millions de dollars était David Bogatin, soviétique, émigré aux États-Unis, associé au mafieux Michael Francese de la famille Colombo dans une affaire d'hydrocarbures. L'argent sale était ainsi blanchi. Derrière Bogatin, on trouve l'un des hommes les plus dangereux du monde, Semyon Yudkovitch Mogilevich, surnommé le « don intellectuel », juif ukrainien diplômé en économie ayant démarré une carrière dans le crime au service d'un gang qui escroquait les candidats juifs à l'émigration en récupérant leurs bijoux dont ils étaient censés récupérer la valeur mais dont la vente finançait des activités criminelles. Ce Moriarty soviétique régnait sur une armée de 250 hommes encadrés par des vétérans de la campagne d'Afghanistan. Il crée une compagnie pétrolière d'import-export en association avec Ivankov, futur parrain de la mafia russe aux États-Unis. Dans les années 90, il est installé en Israël où il multiplie les activités criminelles, trafic d'êtres humains, de matières nucléaires, d'œuvres d'art, de pierres précieuses, raquettes, assassinats sur commande, le tout sous la couverture d'une activité offshore. Il contrôle tous les trafics sur l'aéroport international de Moscou, ainsi qu'une banque accumulant les fraudes, possède une fabrique de canons anti-aériens à Budapest, tout en faisant l'objet d'innombrables mandats d'arrêt internationaux, utilisant 17 identités différentes et 4 nationalités. Au milieu des années 80, confronté à la politique agressive de Reagan, le KGB était à la recherche de contacts de haut niveau aux États-Unis de personnalités du monde des affaires, de la science, de la politique, ayant une attitude bienveillante vis-à-vis de Moscou. Un agent serait chargé d'approcher la cible, de l'inviter à déjeuner et de la sonder. La fiche la concernant devait évaluer les probabilités d'accès ultérieur à de hautes responsabilités politiques. Suivrait une évaluation de sa personnalité, orgueilleuse, vaniteuse, arrogante, ambitieuse, puis ce qui était nommé le compromat, à savoir les pratiques illicites, pots de vin, actes de corruption, jalonnant la carrière de la cible et susceptible de servir de levier de chantage. Enfin, venait une étude sur sa sexualité, son comportement vis-à-vis des femmes, ses liaisons extra-conjugales. En 1977, Trump épouse Ivana Zelnikova, mannequin tchèque de 28 ans. Skieuse très douée, elle a été sélectionnée en 1972 comme remplaçante dans l'équipe de ski tchécoslovaque et ainsi a pu voyager à l'ouest tout en passant une maîtrise d'éducation physique à l'université Charles de Prague. Divorcée d'un agent immobilier autrichien, elle épouse alors un ami d'enfance canadien, un moniteur de ski qui possède une boutique et vit à Montréal, où elle fait du mannequinat pour de grosses entreprises de fourrure, puis redivorce et déménage à New York afin de promouvoir les Jeux Olympiques de Montréal. C'est là qu'elle rencontre Donald Trump au bar du Maxwell's Plum et l'épouse à Pâques 1977. Le couple est surveillé grâce au rapport que le beau-père tchèque Milos fait au service secret de son pays, mettant à leur disposition les courriers que lui envoie sa fille. Peu à peu, Ivana va calquer sa vie sur celle de Donald, travaillant beaucoup, s'impliquant dans les projets et se pliant aux volontés du mania. En 1985, le tout nouveau ambassadeur soviétique à l'ONU, Yuri Dubinin, atterrit à New York et est accueilli par sa fille Natalia, qui travaille déjà dans la délégation soviétique aux Nations Unies. En arrivant à Manhattan, l'ambassadeur aperçoit la Trump Tower, dont sa fille connaît apparemment tous les secrets. Et notre homme décide de la visiter et d'en rencontrer le propriétaire, ce qui est fait. Bien qu'ayant bourlingué dans le monde occidental, Dubinin a la finesse de s'extasier devant la beauté du gratte-ciel et cet aristocrate du KGB met Donald dans sa poche. À l'automne 1986, Trump assiste à un déjeuner organisé par Leonard Lauder, fils d'Esther Lauder, reine des cosmétiques. Donald est assis à côté de Yuri Dubinin, devenu entre-temps ambassadeur soviétique à Washington. On en vient à envisager la construction d'un grand hôtel de luxe face au Kremlin. En janvier 1987, Trump reçoit une lettre de Yuri lui faisant état de l'intérêt manifesté par l'agence Goskomin Tourist pour la co-construction et la co-gestion d'un hôtel à Moscou. Les invitations à séjourner en terre soviétique donnaient droit à un traitement VIP avec fille à la clé et bien sûr caméra ne perdant pas une miette des ébats pour être un jour exploité. Le 4 juillet 1987, Trump réside dans la suite de Lénine à l'hôtel national près de la place Rouge en compagnie de son épouse Ivana et de l'assistante de cette dernière. Donald va visiter une demi-douzaine de sites intéressants pour y bâtir un hôtel et fera une incursion à Saint-Pétersbourg avec son épouse. Le résultat de ce périple et des autres incursions de Trump en terre soviétique fut négligeable en termes de retombées commerciales. En revanche, c'est à cette époque que Donald sentit grandir en lui l'envie de se lancer en politique, pas pour devenir sénateur ou gouverneur, mais pour décrocher un jour la présidence. Trump acheta des pages dans le New York Times, le Washington Post et le Boston Globe pour y déclarer que l'Amérique ne devait plus payer pour défendre des pays qui pourraient assurer eux-mêmes leur défense. En 1987 déjà, Trump se vantait de pouvoir faire la paix avec l'URSS. Toutefois, ses sympathies pour la Russie ne doivent pas occulter que le mentor de Trump fut Roy Cohn, l'avocat juif crapuleux que nous avons déjà évoqué, et que tout un entourage juif accompagna Donald dans ses affaires immobilières, sa sphère d'influence est bien davantage à chercher à Tel Aviv qu'à Moscou. Le couple Trump va donner naissance à Donald Jr., Ivanka, puis Eric. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous poursuivrons lors de notre prochaine rencontre la découverte du personnage flamboyant qu'est Donald Trump. If it's getting harder to face every day, don't let it show, don't let it show. Though it's getting harder to take what they say, just let it go, just let it go. When they mention my name, say you don't know me. And if it helps when they say I'm to blame, say you don't know me. When they say